Merci beaucoup. Je donne la parole à Bruno Vermeau-Gauchy, qui va pouvoir développer, j'imagine, plus amplement les propos de son prédécesseur.
Voilà. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Gérard Camus. Nous travaillons encore ensemble. Donc, mes étudiants participent en particulier aux différentes opérations montées par l'association Cannes Cinéma. Et à la demande de M. le recteur de l'Académie de Nice, donc M. Etis, que je remercie de son invitation, je voudrais vous parler maintenant de manière extrêmement concrète de la manière dont on peut aborder un film du patrimoine ou un film classique devant des élèves qui ne sont pas forcément attirés par ce genre d'œuvre. D'autre part, avant de commencer d'ailleurs, je voudrais préciser tout de suite une petite distinction qu'il faut opérer entre ce qu'on appelle un film du patrimoine et un film classique. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'établis cette distinction. Un film classique, par définition, c'est un film qui a une sorte de perfection, d'équilibre, d'harmonie, au-delà de laquelle on ne peut pas aller, tandis qu'un film du patrimoine est un film peut-être qui n'est pas forcément aussi parfait, puisqu'il est simplement légué par nos ancêtres, par nos pères, pour reprendre l'étymologie du terme, et de ce fait, il peut même être simplement un film populaire. Donc, le film du patrimoine peut s'adresser davantage à ce qu'on appelle un grand public que le film classique qui, par définition, peut sembler rebutant. Pourtant, que ce soit un film classique ou que ce soit un film du patrimoine, pour un élève, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand un professeur propose un film du patrimoine ou un film classique, automatiquement, on a la réaction « c'est un vieux film, donc c'est nul hein. ». C'est en général ce qu'on entend, surtout si le film est en noir et blanc, surtout s'il est en version originale sous-titrée, et plus encore s'il s'écarte des codes et des genres traditionnels. Vous savez qu'un public de cinéma, quel qu'il soit, nous-mêmes, nous aimons être rassurés face à un film, et quand il s'écarte des sentiers battus, on voit très bien cela dans les travaux justement que la sociologie a opéré sur ce point, il y a une surprise et parfois un rejet. Il faut vraiment beaucoup de recul pour accepter la nouveauté. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, quand on aborde un film du patrimoine ou un film classique, il faut être très prudent parce qu'en plus de cela, deuxième élément qu'il faut souligner, cette notion de film classique ou de film du patrimoine est extrêmement évolutive. Je prends deux exemples. Si vous avez les Barbouzes ou les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, vous pensez film populaire, et pourtant ces œuvres sont maintenant dans le dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Et moi-même, au CAPES de lettres modernes, j'ai proposé comme épreuve d'oral un extrait des Barbouzes de Lautner. Autre exemple, si vous prenez Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, qui est le fondateur du western européen, en son temps, ce film a été vilipendé par la critique, alors qu'en 2014, à la clôture du Festival de Cannes, le même film, restauré en 4K, a été proposé dans la salle Louis Lumière. Vous voyez donc que quand on parle de films du patrimoine ou de films classiques, on se heurte à toutes sortes de réticences, à des définitions qui sont extrêmement fluctuantes, extrêmement labiles. Et c'est la raison pour laquelle, quand je veux aborder un film avec mes étudiants, et quand je dis étudiants, on peut parler aussi bien d'un élève de quatrième qu'un élève de classe préparatoire aux grandes écoles. Le processus est le même. Je leur dis, nous allons travailler sur un bon film. Donc, du coup, il s'agit non plus de parler de patrimoine ou de films classiques, mais de bons films. Mais le problème est qu'il s'agit ensuite de définir ce que c'est qu'un bon film. Alors, les critères, là encore, sont délicats. Et pour ce faire, on peut faire référence aux travaux de Laurent Julliet, en particulier, qui propose 6 critères. Il y a 2 premiers critères qui sont la réussite technique et qui sont le succès public. Ce ne sont pas des critères véritables d'évaluation. Vous avez 2 autres critères qui sont l'originalité du film ou qui sont tout simplement, je vais essayer d'être simple, plutôt que l'originalité, je dirais pour ma part la cohérence, voilà. Et ces 2 éléments nécessitent quand même des spectateurs avertis, des spectateurs qui ont déjà fait des études de cinéma. Donc face à des élèves, ces 2 critères ne fonctionnent pas. Il faut en venir donc à 2 autres critères qui me semblent très pertinents. C'est d'une part l'émotion et d'autre part ce qu'on appelle l'édification. L'émotion, c'est finalement la réaction physique qu'un spectateur peut avoir face à un film. Vous savez que de tous les arts, le cinéma est celui qui réagit le plus épidermiquement sur nous. Donc il faut partir de l'émotion du spectateur, même si c'est du déplaisir, pour ensuite arriver à ce qu'on appelle l'édification, qui n'est pas du tout la moralisation au sens étymologique du terme, mais qui est simplement le fait que le film nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose du monde qui nous entoure ou du monde qui l'inspire. Il nous dit quelque chose finalement du cinéma lui-même. On est alors dans ce qu'on appelle la métadiscursivité, c'est-à-dire du fait que le cinéma parle de lui-même. Et on est ensuite dans, je dirais, le fait que le film vous parle à vous en tant que spectateur. On est dans ce qu'on appelle alors le film miroir. Il faut partir de cette notion d'édification, de cette notion d'émotion, pour faire en sorte que l'élève, quel qu'il soit, l'élève de 4e ou l'élève de CPGE, c'est la même chose, entre dans un film et accepte ce qu'on lui propose. Alors, en d'autres termes, si vous voulez, je prends un exemple. J'étudie souvent avec mes élèves de CPGE, donc de classe préparatoire aux grandes écoles, mais on peut le faire aussi avec un élève de 4e, le début d'un film de Tarantino qui est Inglourious Basterds, que vous avez tous vu. Vous avez tous en mémoire l'arrivée du colonel SS Hans Landa, interprété par Christoph Waltz. Et ce personnage est extrêmement poli, extrêmement doucereux, et pourtant, il traîne avec lui une menace épouvantable. C'est une séquence qui met très mal à l'aise les gens qui la voient pour la première fois. Pourquoi ce malaise ? On peut évidemment parler de l'habileté de Tarantino, mais aussi on peut parler du jeu de l'acteur, certes, mais plus encore, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe quand on étudie cette séquence de près avec les élèves, on s'aperçoit que Christoph Waltz traîne derrière lui John Wayne dans La prisonnière du désert, il traîne Lee Van Cleef, la brute, dans Le bon, la brute et le truand, et on trouve encore dans cette séquence des allusions aux sept mercenaires avec Charles de Bronson et une autre allusion à un western italien qui s'appelle Colorado, dans lequel Tarantino a pris la musique qu'il a collée sur Inglourious Basterds. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le malaise vient de ce que le film de Tarantino traîne derrière lui tout un pan du cinéma. Et à ce moment-là, vous faites tout simplement un travail d'intertextualité, c'est-à-dire que vous amenez vos élèves à partir d'un extrait de film qu'ils connaissent bien, qu'ils apprécient bien, pour remonter vers des films qu'ils n'aimerait pas a priori, qu'il ne connaîtrait pas a priori. Et ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous amenez les élèves à avoir, par rapport à leur propre vision du cinéma, un réflexe de curiosité qui passe par le plaisir ou par le déplaisir, première étape. Deuxième étape, l'élève comprend que rien ne naît de rien et que même si Tarantino est génial, pour reprendre leur terme, eh bien, il a de grands devanciers dont il se réclame. Et par la suite, il prend du recul par rapport à ce qu'il voit au lieu de le subir. Et à ce moment-là, il a envie d'aller plus loin et dans son analyse et dans sa culture cinématographique. En d'autres termes, si vous voulez, par le plaisir ou par le déplaisir, vous avez créé une sorte de dialogue entre les films et vous avez amené vos élèves à se cultiver, encore une fois, par une pédagogie en quelque sorte de découverte. Alors, bien entendu, je crois que ce petit exemple, il y en aurait énormément d'autres, permet d'organiser ce que Emmanuel Etis appelle un rendez-vous pour, je le cite, un partage collectif d'émotions générationnelles. Je crois que le film de patrimoine ou le film classique, c'est ce partage qui nous invite à faire, tout simplement parce qu'un film de patrimoine ou un film classique, c'est une œuvre qui se nourrit d'autres œuvres, mais qui va en innerver d'autres à son tour et qui fera en sorte que ces autres œuvres seront consacrées. C'est donc, si vous voulez, l'enseignement du film du patrimoine, pour moi, une sorte de pont qu'on jette entre les générations et ce qui fait que ce pont, finalement, va amener le spectateur à ne pas refuser son plaisir, mais à savoir l'analyser. Vous savez que l'analyse filmique est extrêmement complexe. Les réactions des élèves face à ces films-là nécessitent beaucoup de prudence. Mais je crois aussi que c'est par ce travail de l'intertextualité, comme le montre Laurent Darmon, qu'on peut amener les élèves, finalement, à, encore une fois, ouvrir leur esprit. C'est là, à mon avis, toute la difficulté du métier d'enseignant, mais je pense aussi que c'est toute la noblesse de notre tâche à nous, professeurs. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je donne la parole à Damien Malinas. Faut-il le présenter ici ?
Merci. Non. Merci, Laure. Donc, moi, je m'appelle Damien Malinas. Ça a déjà été dit. Je suis vice-président. Parler plus fort, c'est la chose. C'est ça que je dois faire ?
Voilà, non, mais on t'entend très bien. Voilà. Mais il est timide.
Oui. Et c'est très pratique pour aborder les structures culturelles, puisqu'en fait, moi, je ne travaille pas dans une structure culturelle au sens où vous l'entendez, je travaille dans une université. Donc moi, je vais commencer par dire tout va bien, mais pas trop. Parce que si je dis, comme ça a été souligné tout à l'heure, tout va bien, on va dire que j'en ai trop pour mes actions, mais si je dis ça va pas, on va dire que ce que je fais ne marche pas. Et donc... la question du patch culture, mais c'est une vraie difficulté dans ces dispositifs. Si on dit que tout va bien, bah, ça veut dire que j'ai un peu trop de moyens, et si je dis que ça ne va pas, voilà. Donc, le patch culture, c'est un dispositif qui a été présenté par le président Hélène Camp tout à l'heure. C'était la manière de penser une politique d'accès tarifaire à la culture au moment où les étudiants ont des revenus très bas. Il faut quand même le redire. C'est un moment aussi, moi, il y a quelques années, je n'aurais pas été là puisque l'éducation artistique et culturelle n'était pas pensée dans l'enseignement supérieur. Elle s'arrêtait au lycée et on ne pensait pas ce type de fonction. Et donc, il y avait une espèce de chose qu'on devait mettre en place qui était les passes culture, une espèce de bonne conscience. On se disait, on met en place un dispositif et s'il ne marche pas trop, ce n'est pas grave, on dit qu'on l'aura fait. Et donc, c'est un peu ces dispositifs qu'on met en place en espérant qu'ils ne marchent pas trop, parce que s'ils marchent, ils vont coûter beaucoup d'argent, ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de bonnes nouvelles dans ces cas-là. Et donc, on m'a dit, fais ce pass culture. Et je suis donc allé voir les collectivités avec qui tout se passe bien, mais pas trop. Et en leur demandant quels moyens on allait avoir pour pouvoir avancer, travailler. Ils m'ont dit, on sera super heureux quand vous l'aurez mis en place. On sera là, et ils sont là, ils sont tout à fait heureux à l'heure actuelle puisqu'ils marchent bien. Mais ça a été une chose très compliquée. Puis je me suis dit, tiens, on va aller dialoguer avec les adjoints à la culture des différentes structures en leur disant un truc qui n'était pas bien dans la démarche. C'était, est-ce que vous pouvez rappeler aux subventionnés qu'ils ont des missions d'éducation artistique et culturelle et qui pourraient nous... C'est pas la meilleure manière de convaincre des structures que de leur faire un rappel à l'ordre. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit génial. On fait des tas d'erreurs pour pouvoir avancer. Et puis, au fur et à mesure, on s'est simplement adressé directement aux structures parce que nos propres méandres administratifs sont aussi parfois compliqués puisque passer par des médiateurs qui... Parce que nous, on n'a pas une compétence culturelle. Sur le territoire, on n'a normalement pas à s'adresser aux structures culturelles. On doit s'adresser à la ville, à la communauté, au conseil général, à la région, à la DRAC, au rectorat. On n'a pas spécialement d'adresse directe. Puis on est allé les voir en posant une question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire à minima, ce que vous pouvez faire le moins. Et on leur a demandé simplement de faire une place par an à 5 €. Par membre de la communauté universitaire. Et ça, c'était à peu près possible. Alors, les plus durs à convaincre étaient évidemment les théâtres, pour une raison évidente, c'est qu'ils ont une tension économique très grande, parce qu'à vos débuts, on se dit quand même, les théâtres, ils sont un peu durs, alors que les cinémas sont plus rapidement convaincus, parce que les cinémas, ils voient très vite leur intérêt, ils font du 5 € tout le temps, un théâtre est en train de se calculer très vite, un manque à gagner, et c'est normal. Donc, ils ont commencé à répondre positivement avec des questions. Imaginez demain si 7000 étudiants arrivent dans le théâtre en demandant une place à 5 €. Et on s'est dit que lorsque ça arriverait, on arriverait à traiter le problème. On n'en est pas si loin, puisqu'à l'heure actuelle, nous, on a une université où il y a 7000 étudiants. Et je crois que cette année, il y a 1800 étudiants qui ont pris un dispositif qui est papier, qui n'est pas numérique, où il faut mettre une photo, qui est lourd. Où il faut, voilà, on n'a pas pris... l'espèce de truc facile. Fallait qu'il y ait un truc un peu lourd, puisqu'il est gratuit, ce patch. Parce qu'il ne faut pas... les actes que l'on fait doivent avoir une valeur. C'est pas un chemin de pénitence, parce qu'il y avait une chose à laquelle on te tenait, c'était sortir de la culpabilité culturelle qui est souvent présente dans ces passes culture. Moi, je n'ai absolument très peu de moyens pour le mettre en place. Ce qui fait qu'il y a un truc qui est génial, c'est pas moi qui choisis les structures culturelles qui y participent. C'est pas moi qui suis en train de dire si tel théâtre est meilleur que tel autre théâtre. Ce qui est très compliqué, puisque on est tout le temps en train de culpabiliser les pratiques entre le bon théâtre, le bon Coltès, par rapport au théâtre qui serait moins bien. Donc oui, moi j'aime bien ce type de théâtre, et c'est plutôt celui que je souhaiterais, donc je le privilégierais. Donc je ne prendrai pas le théâtre qui va aller s'adresser directement aux étudiants. Et donc ça a été une chose où, par exemple, ceux qui se repèrent dans le Festival d'Avignon, et on va voir aussi les différences de légitimité culturelle, c'est le Paris, ce théâtre où il y a des pièces parfois moins légitimes culturellement, est présent dans ce patch culture, et j'en suis très heureux, la collection Lambert, etc. Sur une autre chose, et après, je crois que moi j'ai déjà mangé une partie de mon temps, c'était une des choses... où il fallait convaincre les structures culturelles qu'il ne fallait pas diviser ce qu'on appelle, nous, la communauté universitaire, ce qui est une communauté républicaine. On se plaint souvent des communautarismes sans penser d'autres types de communautarismes qui pourraient exister, c'est-à-dire comment fournir des signes qui seraient autres, et le fait que d'aller au théâtre ensemble est un des plus beaux signes de communauté républicaine. Et donc d'expliquer que la secrétaire de catégorie C, elle n'a pas un salaire délirant, et qu'elle a le droit de participer et de ne pas être exclue, parce qu'il y a une espèce de barrière. Et de... Ça, c'est difficile à expliquer, et de se rassurer que les enseignants-chercheurs ne seront pas les premiers à utiliser ce pass culture, et je peux vous rassurer, ils l'utilisent un tout petit peu, mais c'est bien plus utile aux prescripteurs que sont les personnels d'encadrement pédagogique et qui ont un rôle à tenir dans la prescription. Une dernière chose, parce qu'on pourrait dire que tout va bien, puisque tout va bien, mais pas trop. On commence à travailler, puisqu'on a, on pourrait se satisfaire à peu près quasiment 30% des étudiants qui prennent ce pass culture. Je veux dire, on est très, très, très loin. Et le président le signalait, c'est un modèle assez rare en France que d'arriver à avoir une communauté universitaire autant rassemblée autour de la culture qui fait... Et on se rend compte d'une certaine limite. Et on commence à travailler sur d'autres formes qui sont... à travailler avec les restaurateurs et avec les cafés. Alors là, on pourrait commencer à dire que ça commence à devenir un peu putassier. C'est l'espèce de pack McDo cinéma. Et en fait, la chose qui est un tout petit peu compliquée dans ce dont on se rend compte, c'est qu'on touche bien tous les étudiants qui pratiquent l'espace public. Or, nous, on est une université où il y a 53% de boursiers. C'est les mêmes données sociales qu'Evry. Et donc, on a une partie des étudiants. On ne peut pas leur demander simplement d'aller au théâtre, au cinéma directement sans être allé dans l'espace public, d'être allé dans la rue, dans un café, dans un restaurant. Et donc, on est en train de travailler sur ce qu'est une sortie culturelle et aller avec les autres, parce que ce n'est pas tout de balancer les gens en leur disant « tu devrais aller au théâtre » quand on n'a pas été les amener à partager un espace comme une rue et comme un espace public. Donc, tout va bien, mais pas trop.
Ben, merci, Damien. Et c'est bien quand ça ne va pas. C'est pas bien quand tout va trop bien. Donc, on va me poser la même question à mes voisines de droite, donc Nolwenn et Solène. Est-ce que tout va bien à La Roche-Jégue ?
Ça va plutôt pas mal. La Roche-Jégue, c'est un domaine départemental qui appartient au Conseil départemental des Côtes d'Armor depuis 1958. Et ils sont développés depuis 1968 des expositions, et ce, chaque année. Et progressivement, le site s'est étoffé. Au-delà d'un château du XVe siècle, avec un parc contemporain d'inspiration médiévale. Et c'est devenu un véritable vivier de propositions, de créations. Une programmation qui est très éclectique dans un site qui est à la fois un patrimoine architectural, un patrimoine paysager, un lieu touristique, un lieu culturel, où il est aussi question d'éducation. Donc des univers qui se rencontrent. Et donc cette programmation, elle est tournée vers le spectacle vivant. Il est parfois du théâtre, beaucoup de concerts, de musique, de petites formes, de plus grandes formes, des formes déambulatoires. Nous proposons aussi des expositions chaque année de plus ou moins grande envergure, muséographiées, avec des collections. Parfois on invite des artistes, parfois on traite des sciences, d'archéologie, de beaux-arts. Donc là aussi, cet éclectisme, on le retrouve au cœur même du projet d'exposition. Nous accueillons aussi beaucoup d'artistes en résidence, des plasticiens, des auteurs, des chorégraphes. Nous développons aussi tout un volet nature, et c'est très important, et là aussi d'une certaine manière on participe de cette éducation et de l'environnement. Encore une fois, c'est un site, nous vous invitons à y aller, il ne fait pas 35 degrés, plutôt 18, mais c'est très très beau. Et effectivement, ce parc avec ses jardins médiévaux, cette palmeraie, enfin, ces différents endroits sont propices à l'émerveillement, à les découvertes de la faune, de la flore. Et c'est pour ça qu'on y développe les animations nature, tu vas en parler, Solène. Et cette éducation, elle passe par différents aspects. Il y a à la fois un accompagnement qui est très important. Depuis toujours, en fait, le département a misé sur un pool de médiateurs pour accompagner les publics qui sont très présents, et le public est très demandeur. Nous avons aussi des outils qui favorisent l'autonomie, un parcours d'interprétation avec des audioguides, etc. Mais finalement, les gens sont contents de rencontrer d'autres gens et d'être invités à échanger, à être pris par la main pour découvrir, parce que nous, notre objectif, c'est ça, c'est de susciter la curiosité, de provoquer la rencontre, susciter l'émerveillement, l'échange. Et en parallèle de ces outils qui favorisent l'autonomie, eh bien, il y a tout cet accompagnement, et donc en médiation patrimoine, mais aussi en médiation nature. Et je vais laisser la parole à Solène, qui va vous expliquer en quoi ça consiste.
Bonjour à tous. Bon, je suis une femme de terrain. Ça n'a pas l'air, mais je suis médiatrice nature sur le parc. Donc évidemment, le contact avec le public, c'est au quotidien. Et il faut trouver des idées, des alternatives parfois pour développer des outils, parce qu'on n'est pas nombreux. En réalité, dans le pôle animation nature sur le parc, on est un et demi, c'est-à-dire moi et une moitié, qui est là à mi-temps. Il faut savoir qu'on accueille presque 2000 scolaires qui, chaque année, demandent des supports de médiation, vraiment un accompagnement assez complet, avec des propositions très variées, découvertes de la faune, de la flore, de l'histoire du parc, du côté médiéval du parc. Et puis récemment, depuis quelques mois, on a cogité et on a essayé de trouver un nouvel outil qui s'appelle le sac à dos aventure sur le parc. C'est un outil qui n'a pas l'air, mais qui est une vraie aventure à lui tout seul. On propose au public de s'équiper d'un sac à dos et d'y trouver à l'intérieur un certain nombre d'outils interactifs. Donc interactifs, j'insiste vraiment, parce que nous, on a fait le choix. C'est peut-être pas le cas d'autres sites culturels, mais on a fait le choix de ne pas passer par des tablettes, par du numérique. On a vraiment eu la motivation de travailler sur le côté sensible. Et sensible prend tout son sens parce que ce sac, on va justement travailler avec les cinq sens du visiteur. Il va devenir acteur de sa propre visite, il va expérimenter, il va toucher, il va pratiquer. Alors dans son sac à dos, il y a un livret qui le guide, hein, une file d'Ariane qui va le guider comme ça, qui va le mener à travers une dizaine d'étapes avec des défis. Et puis il ouvrira son sac à dos de manière épisodique pour y sortir des appos, pour découvrir le chant des oiseaux, pour y découvrir des boîtes à odeurs, pour lui mettre le nez justement dans les odeurs sur le parc, sur les arbres fruitiers. Et puis encore, il découvrira la flore, il deviendra botaniste, puisqu'il s'équipera d'une flore adaptée et il devra identifier des plantes seules face à la végétation. Et enfin, on a aussi, c'est vrai qu'on parlait du goût qui peut être aussi très intéressant, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre de manière autonome. Mais enfin, tout ça, tous ces défis l'amènent vers une espèce de chasse au trésor, où le visiteur peut repartir avec un livret de découverte du parc. Donc finalement, c'est un outil qui est en pleine expérimentation. Il est tout neuf, il vient de sortir. On a un tout petit peu de recul parce qu'on l'a testé avec des classes du département. J'aimerais le tester avec des familles, parce que ce qu'il faut aussi évoquer, c'est qu'on accueille beaucoup de scolaires, mais il y a beaucoup de public, un public familial, d'individuels qui nous glissent un peu entre les doigts en termes de médiation. C'est pas une critique, ça peut être aussi intéressant de découvrir un site tout seul, mais c'est peut-être encore mieux d'avoir un support adapté avec des outils qui sont déjà pensés. Je dirais en conclusion sur cet outil qui est neuf, que c'est un outil qui fonctionne plutôt bien aux premiers essais, qui permet vraiment, effectivement, je disais, on parlait de se découvrir soi-même à travers l'éducation à la culture. C'est un peu ça aussi, c'est la découverte du paysage, la découverte de son propre environnement. Et finalement, par les sens, évidemment, ça permet d'ancrer dans la mémoire des apprentissages, mais ça permet aussi d'ancrer des ressentis, des perceptions. Et tout ça fait que ça donne de la valeur ajoutée à cet outil qu'on utilise.
Ben merci beaucoup. Vous n'êtes pas venue avec votre sac à dos ?
Je suis venue avec quelques éléments, mais je me voyais mal vous faire le bruit, le chant des moineaux et de la poule d'eau.
Oh, bah écoutez, il y a un spectacle qui vient de commencer aujourd'hui même au Tinel de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Vous découvrirez une comédienne qui fait tous ces bruits-là.
C'est vrai.
Ouais.
Il faudrait que je prenne des
cours. Pas besoin de sac à dos. Voilà. C'est tous les jours à 18h, pardon. C'est avec Marie Vial et Pascal Quignard. Ben, merci beaucoup à vous deux. Et ben, je passe la parole à Florent Briard. On ne vous demande pas de faire un petit chant d'oiseau, non, pour conclure, non.
Bonjour à tous. Alors, le partenariat entre le collège Anselme Mathieu et d'Avignon et le Festival d'Avignon est né d'une rencontre avec Olivier Pie. Il a été formalisé en février 2014 et prend la forme d'un jumelage pluriannuel destinée à favoriser la construction d'un projet sur la durée et à permettre l'élargissement des actions liées au théâtre à l'ensemble de la communauté scolaire, les enfants bien sûr, mais également les parents et les personnels. Alors, le collège Anselme Mathieu est situé dans un quartier périphérique, au cœur d'un réseau d'éducation prioritaire. Et selon les années, entre 85 et 87% des élèves sont boursiers. Les actions s'inscrivent dans cinq domaines principaux. Bien sûr, l'accès au spectacle, avec, entre autres, la participation au parcours festivalier en juillet. Là, cette année, ce sont 18 élèves qui vont aller voir des pièces de théâtre, principalement des élèves de 3e, mais également de 5e, 6e, 4e. Alors, c'est peu 18, hein, mais c'est beaucoup. En tout cas, c'est un travail énorme. L'autre domaine concerné, c'est l'accompagnement d'un atelier artistique, en favorisant notamment les rencontres avec un artiste en résidence. La sensibilisation aux écritures contemporaines également, avec notamment la participation des élèves à la web TV du festival pendant une ou plusieurs semaines dans l'année, parce que cette année, il y a eu une semaine en janvier, une semaine vacances de Pâques, et puis une semaine là, en ce moment même. Autre domaine concerné, les visites techniques des lieux du festival, comprenant également des ateliers autour de la machinerie théâtrale. Un professeur arrivant bientôt à l'âge de la retraite, professeur d'atelier, me disait qu'il avait assisté vraiment à un stage autour de la machinerie théâtrale à l'ISTS début juin. C'était pour lui la meilleure des démonstrations, avec la participation des élèves, bien sûr, à laquelle il avait assisté, quoi. Et puis, autre domaine, c'est l'accueil d'élèves stagiaires en milieu professionnel, à la fois concernant les stages d'observation en troisième, mais aussi des stages pré-professionnels de l'enseignement adapté, car le collège comporte de l'enseignement adapté. Alors, les objectifs poursuivis étaient bien sûr nombreux. Tout d'abord, avant tout, c'est que l'équipe est animée par une conviction, loin de n'être qu'une ouverture. La culture est un vecteur privilégié de prise de conscience, de progrès individuel, d'élévation personnelle. Et c'est une rencontre, une participation, une action qui peut se révéler être primordiale pour l'adolescent dans chaque établissement, collège ou lycée. Olivier Pille l'a assez rappelé tout à l'heure. Et dans cet esprit, le jumelage que l'on a formalisé ensemble, est considéré comme un véritable levier pédagogique. Les actions proposées doivent donner aux élèves à voir, à écouter, à ressentir, et par ce biais à trouver matière à s'intéresser. C'est un élément de stimulation pour l'apprentissage dans toute discipline, apprentissage parfois délaissé depuis longtemps par certains élèves. Et dans ce cadre, plusieurs objectifs pédagogiques et éducatifs sont visés. Bien sûr, favoriser l'appropriation par les élèves d'œuvres littéraires et artistiques, permettre à l'élève de participer à un atelier, à une action collective pour développer son autonomie, permettre la pratique artistique et culturelle comme facteur de développement personnel, on l'a dit, développer la connaissance des filières professionnelles du spectacle vivant, éveiller une réflexion sur l'orientation vers ces filières. Au-delà, un autre objectif incombe au collège Anselme Mathieu, service public de l'éducation, ancré dans un quartier. Il s'agit de déterritorialiser la culture pour nos jeunes afin qu'ils s'approprient la ville. Disons qu'ils prennent le risque de s'approprier la ville comme un espace par une opposition à la notion de territoire du quartier. Alors, que nous a apporté ce partenariat ? Il a tout d'abord permis la rencontre de deux équipes qui ont envie de construire ensemble. Dès le départ, des liens de confiance se sont créés. Et si, dans un premier temps, les équipes du collège ont observé une attitude timide, deux ans après, le changement est spectaculaire. Les enseignants, personnels d'éducation, inscrivent leur action pédagogique dans le cadre du partenariat, pensent au festival quand ils conçoivent leur enseignement ou leur projet. J'assiste donc, moi, comme chef d'établissement, à une évolution tout à fait positive. Par ailleurs, pour les équipes, il y a une véritable fierté à être associé au festival. Pour les élèves, le jumelage est porteur d'innovation à plusieurs titres. C'est un projet systémique qui permet de mettre en œuvre des actions transversales d'ampleur variable. Une action peut être modeste. Il permet, bien sûr, à un public jeune et très majoritairement défavorisé d'avoir accès à une culture contemporaine et vivante de qualité. Il permet également de proposer des actions prenant appui sur les nouvelles technologies. Et là, tout à l'heure, Olivier Pille l'a cité, mais la Web TV du festival est un formidable outil éminemment pédagogique. Et puis, outre ces éléments pédagogiques, il faut observer des indices portant sur le climat scolaire, sur l'état d'esprit des élèves concernés. Et je le dis en mots très simples, ce que nous observons, nous voyons des élèves se transformer par l'expérience du festival. Alors bien sûr, il reste des difficultés, des points à améliorer. Alors la difficulté essentielle porte sur les temporalités différentes entre l'année scolaire et la tenue du festival en juillet. Celle-ci est dépassée partiellement, grâce à une vraie réactivité des équipes des deux côtés. Certaines actions étant mises en place en quelques semaines, voire quelques jours. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de cette contrainte, il est difficile de programmer une action liée au théâtre, par exemple de faire jouer les élèves concernés, un groupe d'élèves, toute l'année. La création d'une pièce construite et jouée par les élèves au festival, demeure un objectif, mais c'est un objectif qui reste ambitieux. Deuxièmement, j'aimerais dire qu'on peut difficilement parler de...
Je vous rappelle à l'ordre, monsieur le proviseur, l'ordre du temps.
Je suis désolé. Veuillez m'excuser, madame.
Non, je vous en prie. C'est un tel plaisir de rappeler à l'ordre un proviseur. J'en profite.
Je veux juste parler du déséquilibre financier. Et l'établissement public local d'enseignement que constitue un collège ou un lycée, eh bien, apporte peu de moyens. Quand il le fait, c'est souvent sur ses ressources propres, ce qui ne peut être fait durablement, quoi. Enfin, dernière chose, il y a une vraie difficulté, il faut la dire, à faire participer les parents d'élèves aux actions. Par exemple, assister à des répétitions ou à des spectacles. Les familles nous font confiance pour permettre à leurs enfants d'y participer. Mais elles semblent estimer que le théâtre, ce n'est pas pour elles. Souvent, je l'observe. Et ce n'est pas un obstacle financier. Hein. Pour cela, on dispose de fonds sociaux et on joue notre rôle là-dessus. Mais c'est bien une barrière psychologique qui est difficile à franchir. Et c'est principalement sur ce point qu'avec le festival, on va essayer de progresser. Merci, encore désolé.
Non, merci à vous. Mais vous avez raison de faire remarquer que... Aller voir du théâtre, c'est pas encore permis à tout le monde, comme de rentrer dans une librairie. Il y a encore des personnes qui n'osent pas rentrer dans une librairie parce qu'elles se disent « c'est pas un endroit pour moi, je suis pas légitime si je rentre dans cet espace-là, je n'y ai pas droit ». Alors comment donc construire un droit, mais qui soit un droit intérieur, se sentir autorisé à... Alors ça, c'est peut-être le travail remarquable que vous faites et qui... année après année, va pouvoir construire du lien.
Il faut la durée, effectivement, il faut la durée.
Est-ce que vous avez félicité votre voisin de droite, monsieur le proviseur? Non, pas encore?
Non, mais en tant que représentant des élèves, il mérite toutes nos félicitations, effectivement, oui.
Bah, moi, je le félicite parce qu'il vient d'avoir son baccalauréat. Ah, bravo! Bravo, Yann. Alors, à vous, après le proviseur, votre discours s'impose.
Exact. Mon temps? Ok. Bravo. Merci beaucoup.
C'est une étape importante. Hein.
Exact.
Je sais bien que les jeunes disent, bon, maintenant, tout le monde l'a. N'empêche que quand on ne l'a pas, on le paye très, très cher. Et c'est quand même une étape initiatique dans notre vie. Donc, encore bravo.
Merci beaucoup. Je m'appelle Yann-Charles Marinet. Je suis élu... plus maintenant, puisque j'ai mon bac. J'étais élu du coup au conseil académique de la ville lycéenne de Nice, et donc lycéen. Dans la thématique, donc acteurs et projets, évidemment, on est un acteur principal de l'éducation artistique et culturelle, puisqu'on est presque les récepteurs, les consommateurs de cette éducation artistique et culturelle, peut-être consommateur, je ne sais pas, mais en tout cas, on la reçoit. Et donc, je pense que c'est la question, c'est comment est-ce que nous, on reçoit l'éducation artistique et culturelle tout au long de notre scolarité, notamment par les acteurs qui sont aujourd'hui présents. Peut-être que je vais faire plus un focus sur le lycée, puisque c'est aussi pourquoi je suis là et les dernières années de ma scolarité dans le secondaire. Du coup, nous, au lycée, en tant qu'élus, notamment du conseil de la vie lycéenne ou même membres des maisons des lycéens, il y a un premier rôle, c'est aussi faire participer les élèves dans la vie culturelle de l'établissement par le biais de nos actions. C'est-à-dire que nous, on a participé à plusieurs expositions, on a essayé d'organiser des actions culturelles dans l'association donc de la maison des lycéens. Et on va être les premiers, peut-être, consommateurs, mais aussi producteurs de l'éducation artistique et culturelle, puisqu'on essaie de faire vivre la culture dans le lycée. Et au sein du CAVL, ça va être un peu la même chose, même si notre mandature, on ne s'est pas spécialement consacré à la culture ou à l'art, puisqu'on a surtout fait des projets sur le harcèlement, le décrochage scolaire, la communication. Cette année, on a travaillé sur un projet européen, interculturel, avec des élus d'autres pays, notamment d'Écosse, de Catalogne ou d'Italie. Et ça permet aussi ces actions interculturelles de rapport entre les élèves, de comparer et de pouvoir discuter finalement, parce que c'est aussi ça un des enjeux. Je pense que du coup, le CAVL, il peut avoir un rôle aussi de l'action culturelle au sein des académies, comme peut l'avoir le CVL au sein des lycées. Et donc voilà. Il faut le dire, on n'a pas vraiment de projet. On vient de parler, je viens parler en tant que témoin plus qu'autre chose, puisqu'on ne construit pas de projet sur le long terme. Puisqu'en plus, le lycée, c'est vrai que c'est très court. Et pour des lycéens, construire une action culturelle, il faut toujours voir sur le long terme. L'engagement lycéen est très court, il dure 3 ans, mais souvent le temps de découvrir les institutions lycéennes, c'est déjà la seconde, voire la première. Et en fait, dès qu'on pense pouvoir faire quelque chose, c'est déjà la fin du lycée. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de collaborer avec les acteurs des établissements. Ça peut être les CPE, mais aussi les référents culturels, les documentalistes, qui eux peuvent nous aider à essayer de construire des actions sur le long terme. Surtout que moi, je pense que la culture, ça doit être quelque chose qui doit être ancré dans la vie des établissements, au sein des temps scolaires, au sein des programmes, mais ça l'est plutôt déjà, mais aussi en dehors des temps scolaires, c'est-à-dire que ce soit au CDI, quand les gens n'ont pas classe, que ce soit après les cours aussi éventuellement, avec un accès au cinéma. Moi, dans mon lycée, effectivement, il y a des élèves effectivement, qui participent à Écran Junior et au RCC. C'est un lieu d'ouverture culturelle parce que des parents, des élèves n'ont pas accès à cette culture et le lycée peut être un des seuls lieux où ils peuvent y avoir accès. Et donc, c'est important d'avoir de l'art et de la culture dans le lycée et il ne faut pas réduire, mais au contraire, toujours augmenter cette offre culturelle et artistique. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le bachelier. Alors, je donne la parole à Julien. Il est où? Ah ben, voilà. C'est vrai que vous êtes à ma gauche. Alors c'est toujours... Je vous donne le micro aussi.
Bonjour à tous, donc je suis Julien Neutre, le directeur de la création des territoires et des publics au CNC. Et c'est sous la casquette publique là que je vous parle, parce que c'est ce qui regroupe toutes nos opérations d'éducation à l'image. Il y a un lien évidemment avec tous mes autres services, puisque c'est éminemment territorialisé. Et tout notre enjeu, c'est de mailler au mieux ce territoire, de mettre en cohérence des relais et sans cesse de toucher de plus en plus de jeunes. Donc tout va bien, mais pas trop, comme le disait un des intervenants précédents, puisque historiquement au CNC, on a des dispositifs d'éducation à l'image très puissants, que vous connaissez sûrement, qui s'appellent école, collège et lycéens au cinéma, et qui permettent à près aujourd'hui d'1,5 million d'élèves par an d'aller environ 3 fois au cinéma avec leurs enseignants, découvrir des films, expérience souvent augmentée avec des interventions en classe, des ateliers pour certains, et ce qui permet de toucher donc en une année à peu près environ 12% d'une classe d'âge. Donc on peut se dire, c'est formidable, c'est une des éducations artistiques et culturelles les plus puissantes, mais on peut se dire aussi qu'on ne touche pas 88% d'une classe d'âge et que des élèves sortent encore de leur cycle scolaire sans avoir été touchés et exposés au cinéma et à l'éducation à l'image. Donc c'est ce qui anime notre réflexion. Évidemment, on veut renforcer, toujours pérenniser mieux ces dispositifs historiques qui sont essentiels et qu'on construit en collaboration avec l'éducation nationale, bien sûr, et les collectivités territoriales. Mais pour les compléter, on a plusieurs grandes pistes pour aller toucher les jeunes partout où ils peuvent regarder des images. Donc ça passe d'abord dans le temps scolaire. On se dit que si on veut toucher 100% d'une classe d'âge, il y a un moment donné où le plus efficace, c'est quand même d'être un passage obligé dans un enseignement avant qu'il soit obligatoire, donner envie à tous les enseignants à un moment donné dans une classe d'âge de faire une séance autour de l'éducation à l'image. C'est un enjeu hyper important. On apprend à lire, à écrire, pas à lire, à écrire les images. Donc on s'y attelle. Et là, très concrètement, pour ce faire, on travaille avec l'éducation nationale pour essayer de créer un module ludique qui s'adresse aux classes de CM1 et de CM2. Et pour donner clé en main, y compris aux professeurs des élèves qui sont les plus éloignés de cette pratique-là, les plus éloignés du cinéma, de l'audiovisuel et qui n'en ont pas les clés, le module ludique, donc intuitif, est le plus simple possible pour assurer au moins une séance autour de notions de base et du plaisir du cinéma et des images pendant donc la scolarité CM1 et CM2. Évidemment, un jeu qu'on pense évolutif et qui permet d'augmenter l'expérience. Le professeur des élèves qui veut aller plus loin pourrait en faire plusieurs séances. L'élève qui veut prolonger l'expérience chez lui aussi, ça sera possible. Et donc, très concrètement, on a lancé un appel à projet. On a eu une dizaine déjà de propositions assez innovantes, dont on va tester des prototypes l'année prochaine. À travers, on ne peut pas encore trop révéler. C'est des choses assez mixtes, avec du physique, on a voulu que la solution soit la plus universelle possible. Donc, il faut qu'elle puisse intégrer les écoles qui ne sont pas équipées numériquement. Mais il faut aussi qu'il y ait une augmentation numérique. Enfin, on cherche un peu le mouton à 5 pattes. Et donc, pour ce faire, on a lancé un appel à projet de recherche et développement. Et donc, on va co-construire avec notre prestataire qui sera choisi au bout de la procédure. Et donc, l'année prochaine, c'est le temps des tests, des prototypes, et pour un déploiement qu'on espère à la rentrée scolaire 2017-2018. Donc ça, c'est un premier axe intégré au niveau CM1, CM2, cycle 3, comme l'appelle l'éducation nationale, les classes. En parallèle, on réfléchit aussi dans la même logique à intégrer les collèges via la réforme des collèges et trouver des solutions pour les professeurs dans leurs enseignements pratiques interdisciplinaires. Et on pense que le cinéma et l'audiovisuel peuvent être source de solutions et d'ateliers pratiques à animer entre, évidemment, différents professeurs. Donc là, on est en train de repérer toutes les bonnes pratiques possibles pour essayer de pouvoir ensuite les diffuser et donner envie et donner des idées à tous les professeurs pour s'emparer du cinéma et de l'audiovisuel pour animer leurs EPI. Donc ça, c'est en classe. Dans le temps périscolaire, pour aller plus loin et pour répondre aussi à la demande et à l'initiative de ces lycéens qui, en effet, ont fait le même diagnostic, passent assez vite finalement au lycée. Et donc, on a souhaité, et c'est un des grands objectifs aussi de la présidente du CNC, relancer les ciné-clubs dans les lycées. Toute la cinéphilie française et tout d'ailleurs notre secteur s'est construit autour des ciné-clubs. Il y en avait 10 000 à un moment donné en France, très réguliers, des rendez-vous réguliers. Vous avez peut-être tous été exposés, vous êtes passés aussi par là. Aujourd'hui, on en compte plus que 300 avec une fréquence beaucoup moins importante. Et donc, pour les relancer, on va s'appuyer sur les jeunes du service civique pour qu'il y ait des passeurs, comme ça, des ambassadeurs de notre secteur intergénérationnel. Et donc, on a fait une première expérimentation avec 300 jeunes du service civique qu'on a armé d'un catalogue d'une trentaine de films choisis avec l'Éducation nationale, les films du prix Jean Renoir, qui est le prix des lycéens. Et ils vont démarcher les lycées à la rencontre des lycéens, des référents culture, pour organiser clé en main des séances de projection d'œuvres cinématographiques accompagnées d'un débat, et d'un débat entre jeunes, entre pairs, qui doit nous échapper. Donc c'est une autre manière d'allumer la flamme, de donner envie de s'emparer du cinéma, avec l'idée de vraiment de créer cet amour du cinéma et du débat qui va ensemble, et donc sur des modalités très complémentaires et très différentes des dispositifs existants qui se font, encore une fois, accompagnés par l'enseignant et dans la salle de cinéma. Donc ça, cette piste des ciné-clubs, on souhaite la développer avec les salles de cinéma qui cherchent aussi, et c'est une stratégie commune avec elles, des ambassadeurs auprès des jeunes et du jeune public, et évidemment avec les collectivités territoriales et les premières d'entre elles, s'agissant du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, les régions avec lesquelles on a des grandes conventions régionales. Donc dans les prochaines conventions qu'on passe avec les régions 2017-2019, on va embarquer les régions pour déployer ces ciné-clubs, et on a un objectif d'ici la fin de l'année, donc dès la rentrée prochaine, d'en recruter 1000 jeunes du service civique pour déployer ces ciné-clubs dans les lycées. Et enfin, dernière brique, et je conclurai par là, et ça boucle avec aussi tous nos enjeux, nous, de jeunes créations au CNC. On souhaite aller aussi là où les jeunes regardent des images, et dans la même stratégie de passeur. Donc on souhaite aller sur les plateformes numériques, sur YouTube, Dailymotion, et susciter des créations qui fasse un travail d'éducation à l'image sans le dire. Et là, j'ai profité de mon passage à Avignon pour visiter le cinéma et studio Pandora, qui anime une bande de youtubeurs qui anime cette chaîne, et notamment, pour certains d'entre eux, vous devez connaître le Fossoyeur de films, qui fait un travail très, très intéressant de passeur, comme ça. Et donc, on va s'appuyer sur ces youtubeurs pour susciter des créations d'éducation à l'image et aller là où les jeunes regardent les images, créer ces briques de passage entre ces créations nouvelles, les images qu'ils regardent aujourd'hui, et le patrimoine, et faire des passerelles avec tous nos autres dispositifs.
Merci, ce n'est qu'un début donc. Et maintenant, merci beaucoup Jérôme. Et maintenant, monsieur Fabiani, dit Jean-Louis. Je vais vous laisser ma place.
Monsieur Molina.
Bon.
Merci beaucoup. Donc 5 minutes, brumisation comprise, comme aurait pu dire Jacques Chirac. Donc j'étais entre deux chaises. Je n'avais pas de chaise, mais c'est tout à fait normal pour qui travaille entre l'éducation et la culture, ce qui a été mon cas, puisque 46 ans de service, dont 43 à l'Éducation nationale et 3
au ministère... Ça vous permet de rester jeune, Jean-Louis.
Bien sûr, au ministère de la Culture. Et j'ai expérimenté donc la difficulté de cette transition, sans doute beaucoup plus difficile il y a une trentaine d'années qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai recruté mon premier recrutement quand j'ai été nommé DRAC, après une demi-heure de formation par Pierre Jox. J'ai recruté André Santelli parce que l'ami Maurice Fleuret, que Laure a peut-être connu.
Bah oui.
Voilà, Maurice, qui était un grand ami de la Corse, qui avait créé un merveilleux festival, m'a dit « Écoute, j'ai sous la main un petit jeune qui va beaucoup t'intéresser, c'est André Santelli, il faut que tu le vois. » Il avait 25 ans et il travaille maintenant pour l'éducation artistique et culturelle, et c'était le bon choix. J'avais fait le bon choix parce que Santelli était fils d'instituteur comme moi, et étant pour un temps à la culture, je voulais rester fermement, disons, dans le terreau de l'éducation. Alors, pour conclure en 3 minutes maintenant, je voudrais dire que j'ai beaucoup appris de cette table ronde parce que, justement, elle a précisé un certain nombre de conditions de l'intervention, disons, éducative en milieu culturel. Et je voudrais commencer peut-être par la référence de Béatrice Massé, « Introduire sans obligation d'aimer ». Je crois qu'une des conditions de la félicité de l'éducation artistique et culturelle, c'est précisément de ne pas inclure l'obligation d'aimer et précisément de considérer que la relation à la culture, elle est d'abord une relation critique, d'abord une relation évaluative. Et quand Gérard Camille a évoqué ses jurys de jeunes, je trouve qu'il a dit quelque chose de très important. Mettre les gens en situation d'évaluer, même s'ils n'ont pas, comme le disait Laura Adler, les critères et les canons de la légitimité pour eux. C'est une chose essentielle. On prête à André Malraux, je ne sais pas si c'est Biasini ou Gaëtan Picon qui avait trouvé le gimmick, peu importe, mais l'éducation vous apprend à connaître Racine, la culture vous apprend à l'aimer. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Et justement, dans l'apprentissage, il y a du plaisir, Olivier Py le disait, il y a de l'émotion, au moins autant que dans la culture. Et la vraie question, c'est précisément refermer cette plaie ouverte par la distinction absurde entre l'éducation et la culture. Et pour refermer cette plaie, je crois qu'il faut, comme le disait Damien Malinas, accepter que les choses aillent bien, mais pas trop, ce qui est quand même bien mieux que les choses n'aillent pas trop, mais bien. Et dans cette connaissance, je crois que la sociologie, dont je voudrais faire l'éloge aujourd'hui, si on me le permet, la sociologie des publics, cette humble servante des politiques culturelles, longtemps vilipendée par nos administrateurs, que cette connaissance fine des publics est une des conditions aussi de la réussite de cette relation critique. Puisque l'éducation populaire, et je conclurai là-dessus, est souvent évoquée par les administrateurs de la culture, alors souvent ils ne savent pas trop de quoi ils parlent, qu'est-ce que c'est que ce populaire ? À l'origine, l'éducation populaire, c'est une activité d'auto-émancipation de la classe ouvrière à partir, disons, d'une perspective anarcho-syndicaliste qui se défie des institutions, qui se méfie du savoir établi. Et précisément, c'est ce contact entre, disons, les institutions culturelles qui produisent et reproduisent de la légitimité et puis, d'un autre côté, ces volontés d'émancipation que les choses peuvent se passer. Et donc, les administrateurs de la culture, j'ai oublié d'enlever mes lunettes, les administrateurs de la culture doivent aussi apprendre à oublier les critères de la politique. Comme on l'a vu dans toutes les expériences de La Roche-Jégu à Cannes, ce qui se joue dans ces affaires, c'est précisément le fait qu'on ne peut pas imposer un canon culturel. Aujourd'hui, les canons culturels ont été vaincus par le multiculturalisme, en même temps, il faut continuer de dire que la culture est la plus essentielle des valeurs. Et ça, c'est une partie difficile que seuls des gens qui sont dans l'action et informés par les sciences sociales peuvent accomplir. C'est ce que vous ont montré tous les intervenants de cette table ronde. J'ai fini.
Ben, merci beaucoup, Jean-Louis. Nous n'avons qu'une heure de retard, c'est pas grave. Si, il me semble, mais enfin bon.
Non, hein.
Ah bon, on est dans les temps. Mais alors, on peut peut-être s'autoriser un petit
break, oui.
Une petite suspension de séance pendant quelques minutes.
C'est de l'eau.
Ok. Alors, à tout de suite.